Conversation urbaine et architecturale, Myriam Schwartz, architecte et urbaniste.
Radio-imo.fr.
Une émission présentée par Cardam, l'engagement d'un groupe innovant, un savoir-faire qui allie conseil, architecture et aménagement.
Chers amis, bonjour. Je suis ravie aujourd'hui de recevoir, dans le cadre des émissions que nous faisons avec Cardam, David Abrias, directeur général du pôle architecture chez Cardam. Bonjour David.
Bonjour Myriam.
Alors, plein de sujets à débattre, mais surtout un sujet qui est extrêmement d'actualité, puisque on va parler de réinventer Paris numéro 3. Sur lequel je pense que vous avez des engagements forts et dynamiques. Vous pouvez nous expliquer un petit peu quel est l'objectif de Cardam, justement, dans ce nouveau Réinventer Paris ?
Alors, bon, c'est surtout
le sujet.
Bon, pour ceux qui avaient suivi les étapes précédentes, hein, il y avait eu plusieurs façons de réinventer la ville. Celle-ci est intéressante puisqu'elle vient percuter une crise d'actualité, puisque c'est la reconversion de bureaux en logement. Alors, de bureaux en logement ou en d'autres choses, en tout cas la reconversion de bureaux. Et c'est un sujet qui est particulièrement prégnant à Paris, bien sûr, mais qui ne concerne pas que Paris.
Oui, parce que vous intervenez énormément en province et vous avez cette thématique aussi en province. Hein.
On est aujourd'hui, je crois que tout le monde, hein, tous les grands exploitants ou utilisateurs de locaux tertiaires se demandent ce qu'il en sera à l'issue de la crise, si un jour elle trouve une issue, ce qu'on espère. Donc c'est vraiment le sujet qui préoccupe tout le monde, avec une particularité sur Paris en tout cas, c'est que alors il y a évidemment une très forte quantité de bureaux à Paris qui sont pour l'instant pour la plupart essentiellement vides et qui sont
alors d'autant plus si je puis me permettre David c'est qu'on a effectivement désossé et démoli pas mal d'immeubles haussmanniens sublimissimes qu'on a transformé lors de la période précédente celle où tout le monde voulait avoir son centre, vivre au sein et au milieu de la capitale. On a transformé énormément ces immeubles de logements haussmanniens qui étaient sublimes. Et aujourd'hui, on en revient, on fait l'effet inverse. Est-ce que le business model est intéressant, toujours aussi intéressant ?
Alors, les immeubles haussmanniens, ils ont quand même une énorme qualité. Dans le cas, si on parle de reconversion,
ils ont des belles façades.
Quand même à l'origine, hein. Ils sont magnifiques. Ils sont construits dans des proportions qui permettent justement, avec une certaine générosité, qui permettent d'imaginer d'autres usages. Donc, c'est vraiment le cas type pour lequel la reconversion présente un intérêt majeur. Alors après, est-ce que c'est intéressant? Si on se place d'un strict point de vue financier ou opérationnel, pas tant que ça jusqu'à présent,
hein,
parce que l'investissement dans le bureau était quand même l'investissement phare pour plein de raisons, et il n'y a pas beaucoup de grands propriétaires de surfaces tertiaires qui avaient finalement un intérêt financier à aller dans cette reconversion-là. Pour toutes ces raisons-là, parce que quand on loue du bureau, on loue de la surface utile nette, hein, on ne loue pas juste du logement.
Bien sûr.
Et c'est un marché sur lequel les loyers, évidemment, sont très structurants. Donc aujourd'hui, on arrive à...
Mais on en revient, puisque la crise nous oblige à réfléchir autrement.
Et voilà, aujourd'hui, ces locaux-là sont vides, les loyers ont sans doute être sur des tendances baissières. Et ça change évidemment la donne, d'autant que tout ça vient percuter des considérations environnementales fortes, notamment sur le fait d'arrêter l'artificialisation des sols. Et on vient enfin de prendre conscience qu'on avait dans nos paysages urbains des bâtiments qui finalement étaient très peu exploités. Les investisseurs immobiliers disent souvent que l'immobilier tertiaire, c'est un investissement paresseux. Et c'est vrai qu'un bureau, c'est vide la nuit, c'est vide le week-end. Et dans le monde normal, c'était à moitié vide toute la journée.
Et alors maintenant, c'est vide, on va dire, normalement, 4 jours sur 5, puisque nous sommes obligés d'être en télétravail 4 jours sur 5, n'est-ce pas ?
C'est ça. Et donc, ça pose la question. Aujourd'hui, on est en train de chercher des surfaces pour loger les gens, pour apporter du service et de la ville. On réfléchit à la question des mobilités et on a cette espèce d'énorme réservoir de surfaces qui sont dans toutes nos villes, hein, dans toutes nos villes. Et se pose la question de leur transformation. Alors, ça, il y a un déclencheur qui est évidemment
Il y a le coût quand
l'intérêt, la
même de la
facilité.
transformation.
Il y a le coût de la transformation, alors qui est à mettre en regard de ce que ça apporte. Et ça apporte quand même beaucoup de choses. Ça apporte une amélioration de l'empreinte carbone. Aujourd'hui, on estime que l'empreinte carbone est à peu près moitié moindre de reconvertir un bâtiment existant pour y faire du logement plutôt que de construire
Et puis
un
ça
bâtiment
refait du
neuf.
cradle to cradle, le fameux sujet que nous avions abordé la dernière fois.
Oui, bah, enfin, quand vous voyez, alors je me souviens, Myriam, une forme de scepticisme que vous aviez sur ce sujet la dernière fois. Et voilà, malgré tout, l'urban mining, c'est-à-dire le fait de pouvoir réutiliser des matériaux existants, de reconstruire la ville sur elle-même et de faire en sorte qu'un bâtiment en fin de vie soit encore un réservoir de valeur, je pense que c'est des choses
Bah, sur les immeubles haussmanniens, c'est perpétuel.
qui vont devenir très concrètes. Les immeubles haussmanniens sont un bon exemple et ça veut dire qu'il faut qu'on réinvente aussi une manière de construire en neuf des bâtiments qui pourront avoir plusieurs vies. Et aujourd'hui, les bâtiments qui sont le plus durs à reconvertir, c'est cette phase de l'histoire où on construisait de façon très optimisée et très spécifique. Et dans un
Alors,
bureau des
si je
années
puis me
80, faire autre
permettre.
chose que du bureau, ça se complique un peu
Si je puis
techniquement.
me permettre, David, on a un léger décalage dans le retour et je vous prie de m'en excuser. Quelle est la manière de transformer les immeubles des années 70-80? Parce que les immeubles des années 70-80 de bureaux sont totalement obsolètes, ne serait-ce que pour des raisons de câblage, informatique, etc. Donc, ils ont été vraiment abandonnés. La plupart ont des panneaux préfabriqués, enfin, des mises en forme ou des mises en volume qui sont assez contraints par des grandes épaisseurs, des panneaux préfa. Comment fait-on pour rendre ces immeubles agréables à vivre pour des logements avec des espaces extérieurs, avec une vraie technique de reconversion qui soit sympathique, mais aussi évidemment financièrement rentable, on va dire, ou en tout cas au moins raisonnable, hein.
Alors, ce ne sont pas des sujets très complexes, mais c'est pas très simple non plus, hein. Le premier sujet qui saute aux yeux, c'est le problème de l'épaisseur. On n'est pas sur les mêmes épaisseurs pour des bâtiments de bureaux et pour du logement. Mais là encore, la période actuelle nous apporte une forme de réponse, puisqu'on se rend compte que une des façons de rendre la densité urbaine acceptable, c'est aussi de ménager des extérieurs et d'avoir des dedans-dehors qui soient plus agréables à vivre. C'est une façon de régler ce problème d'épaisseur. Ça se fait d'ailleurs de plus en plus, de
C'est-à-dire des
réinvestir les
patios, des
extérieurs.
démolitions, des patios au milieu, au centre de ces bâtiments, dans l'épaisseur des 18 mètres, qui permettent d'avoir des espèces de coursives extérieures.
Oui, alors ça, on peut le faire dans les deux sens. Et là-dessus, enfin, chaque immeuble a sa. présente ses opportunités et il y a une solution à partir du moment où on arrive à avoir un budget suffisant. Et la difficulté, je pense qu'elle est plus là, c'est qu'une reconversion d'un immeuble, ça coûte à peu près le même prix qu'une
Une construction.
construction neuve. Et jusque-là, le business model était pas très intéressant. Alors, il y avait eu, dans le cadre de la loi Elan, des bonus de surface qui avaient été proposés, qui sont déjà une forme de solution. C'est sûr que si on peut atteindre on allait jusqu'à 30% de surface supplémentaire, donc ça change quand même un petit peu l'équation. Et là, je pense que de façon volontariste, dans le cadre de la loi climat, on va avoir encore des incitations qui seront plus importantes. Et à partir du moment où on est capable de mettre le niveau d'investissement nécessaire, mais il n'y a pas de. Voilà, les
Mais alors,
solutions techniques
pour
après
mettre le niveau
se trouvent à.
d'investissement nécessaire, il faut aussi, bien évidemment, le prendre en considération, c'est que ces bâtiments de bureaux sont dans les actifs des sociétés. Donc, comment fait-on pour avoir, je dirais, une sortie des actifs?
Ah ben c'est là qu'il faut avoir une action volontariste qui dépasse le rôle de l'architecte. Je sais bien qu'on attend beaucoup de choses des architectes. Ça, pour la peine, c'est pas de notre ressort.
Bah,
Mais
bien sûr.
si y a une chose, je pense qu'il faut entendre. Aujourd'hui, on a quelques milliards qui se déversent dans notre économie au titre de l'amélioration des conditions thermiques des fameuses passoires. De nos passoires thermiques. Aujourd'hui, réisoler un bâtiment existant, on sait que l'investissement carbone ne sera jamais récupéré sur l'usage. Donc, bon, c'est formidable de permettre, en tout cas, au secteur du bâtiment de travailler dans cette période, mais j'ai le sentiment qu'on est un peu en train d'investir à vide et parfois d'investir de façon contre-productive par rapport à l'objectif.
Alors, ça veut dire qu'on pourrait un petit peu...
C'est d'améliorer notre empreinte carbone.
Oui,
il faut il faut surtout pas, ou le moins possible, retravailler des bâtiments existants pour leur conserver le même usage. Au final, vous n'avez pas amélioré la situation carbone. Réinvestir des surfaces dans la ville en les améliorant techniquement, donc avec l'investissement que ça nécessite, là on a un véritable impact, et en conservant une structure existante, on a une économie sur le gros œuvre.
Alors, David, excusez-moi, on en parlait avec Alexandre Chirier, qui est président Action Logement, de la foncière de transformation de bureau que j'interviewais, et on discutait, et j'aimerais vraiment en parler avec vous, du modèle économique, de savoir comment on fait pour rendre cette transformation vertueuse. Comment on fait pour pouvoir proposer des immeubles donc transformés de bureaux en logements qui soient des logements pour tous, avec peut-être une mixité d'usage, du commerce, du coworking, du logement, et avoir un modèle qui puisse être peut-être éventuellement reproductible et qui s'attache aussi par rapport au bilan carbone aux problématiques de préfabrication. Comment fait-on pour rendre tout ce modèle-là un peu plus vertueux?
Je crois que le maître mot, c'est la souplesse, en fait. Aujourd'hui, on doit être capable de construire un bâtiment qui va pouvoir se reconfigurer, s'adapter à des usages qui vont évoluer. On s'en est rendu compte récemment, hein, les usages peuvent... On avait déjà vécu ça avec Airbnb, vous savez, quand il y avait...
Oui, bien sûr.
Quand Airbnb a déferlé sur le marché, bah, tout d'un coup, la typologie des logements n'était plus la même.
Et le marché locatif totalement différent.
Et tout a changé. Donc, ce dont on se rend compte, c'est que finalement, si on s'inscrit dans la durée de vie d'un bâtiment, il va avoir plusieurs vies avec des mixités d'usages qui vont se redéfinir. Il y a un immense chantier sur les mobilités. Alors, en ce moment, on est à la vie du quart d'heure. Je ne sais pas si on verra l'avènement de la vie du quart d'heure. Mais voilà, il y a beaucoup. On parlait en introduction de est-ce que le bureau va perdurer ou pas. Je crois qu'aujourd'hui, personne n'a de réponse à long terme là-dessus. Ce dont on est sûr, c'est que quand on construit quelque chose, il faut que ce soit capable de s'adapter aux différents usages qu'on va venir y injecter en 10 ans, 20 ans, 30 ans d'espérance de vie. Donc, je crois que la solution, elle est là. Et c'est sûr, pour des acteurs comme Action Logement, l'équation est complexe, parce que la mission d'Action Logement, c'est de construire du logement.
Du logement pour les travailleurs les salariés.
Où est-ce qu'ils travaillent, ces gens-là? Ils travaillent chez eux. Et d'ailleurs, donc en parallèle, Action Logement a aussi une réflexion sur être capable de traiter cette mixité et de permettre du corporate working à proximité des lieux de vie. Donc tout ça s'inscrit dans des ensembles immobiliers, si vous voulez aborder le sujet plus de l'architecture.
Oui, de la ville, et puis de la ville, parce qu'effectivement, là, on a parlé plutôt du bâtiment, mais le bâtiment de bureau s'inscrit évidemment dans une vraie urbanité. C'est l'impact au niveau de l'emprise au sol, elle est énorme, puisque ce sont des bâtiments plutôt épais, un petit peu lourds. Comment fait-on pour alléger cette emprise, et d'autant plus que autour, parfois, dans ces zones de bureaux, on n'a pas grand-chose?
Oui, c'est sûr qu'il y a une urbanité globale à revoir, d'ailleurs. C'est pour ça que je pense qu'il faut qu'il y ait une politique forte, parce que il y a une cascade de conséquences qui va bien au-delà des problématiques de gestion de l'épaisseur de bâtiment. C'est-à-dire que si vous recréez un lieu de vie, vous allez devoir recréer des infrastructures, vous allez devoir créer des écoles, vous allez devoir créer des services. Donc cette notion de mutabilité des immeubles, aujourd'hui, elle s'entend y compris pour ce type d'infrastructure. Ce n'est pas juste passer du bureau à du logement. Ça veut dire qu'il faut qu'une zone de service soit capable un jour d'accueillir une école. Donc, on a vraiment besoin d'une... Tout ce qui doit être construit aujourd'hui doit être capable de s'adapter dans les 30 ou 40 prochaines années, de façon hyper large.
Et alors, voilà, quelle est la réflexion de Cardam aujourd'hui sur justement sur cette thématique?
Ah bah elle est multiple. Alors on travaille beaucoup. On travaille beaucoup sur l'économie de matière, parce que aujourd'hui, quand vous êtes architecte, ce qu'on a tendance à entendre le plus souvent, c'est que construire c'est mal. Construire c'est mal.
Oui, surtout récemment avec les élections, on a dire que effectivement l'acte de construire n'était pas nécessairement une valeur vertueuse.
Donc, nous, la question qu'on essaie de se poser par rapport à ça, c'est voilà, qu'est-ce qu'on peut apporter? Parce que c'est quand même notre vocation
Bien sûr.
de concevoir et de construire. On espère apporter une valeur architecturale, une valeur sociétale par le biais de tous nos projets. Donc, la question qu'on se pose, c'est qu'est-ce qu'on apporte? Donc, on a bien sûr des réflexions d'usage. Ça, je crois que c'est vraiment le socle de notre organisation. On est très, très structuré pour être capable d'appréhender les usages à la fois dans leur finesse actuelle et puis dans une forme de prospective. Et on se penche beaucoup sur les aspects techniques avec une conviction, c'est que la frugalité devient de plus en plus importante, hein,
Bien
l'accès à la
sûr.
ressource
Et est-ce
est
que vos
complexe.
clients arrivent à être convaincus lorsque vous commencez à réfléchir et à concevoir un bâtiment de bureau aujourd'hui, dont vous réfléchissez à son avenir dans 10 ans, à sa frugalité? Est-ce qu'aujourd'hui, le client final, il est à l'écoute de cette frugalité?
Ben, je crois que oui. Je crois que oui. Alors, c'est pas que ce soit un phénomène récent, mais c'est vrai qu'il y a une accélération de fond qu'on a pu observer. Et là, je crois qu'il y a une vraie prise de conscience. Et tout le monde aujourd'hui, jusque-là, certains labels avaient plus des vocations de communication ou d'affichage. C'est de moins en moins le cas. Je crois que tout le monde est conscient du problème et essaie de mettre du sens derrière ce qu'on est en train de réaliser. Un projet immobilier, quel qu'en soit le porteur, ben maintenant on essaie d'y mettre davantage de sens. Et je crois qu'on a aussi conscience des excès qu'on a pu avoir. Et il faut mettre ça en parallèle aussi d'innovation, hein. Il y avait jusque-là besoin de beaucoup de techniques pour apporter du confort. Aujourd'hui, on arrive à faire des choses qui sont plus fines et on sait créer des immeubles qui répondent à leur usage, qui restent polyvalents et qui sont agréables à vivre en mettant moins de matière, en mettant moins de techniques et finalement en privilégiant le confort en tant que le lieu de vie et lieu de tous les usages qu'on va pouvoir
Oui,
y
sauf
apporter.
qu'effectivement, en ce moment, et bon, espérons-le, c'est provisoire, ces immeubles de bureaux sont peu utilisés. Comment pourrait-on faire pour le soir, le week-end, les utiliser différemment ou décider que ponctuellement, on a des usages différents? Mais
Alors
ponctuellement.
ça c'est une grande question, puis ça ne concerne pas que les bureaux, hein. Aujourd'hui, on sait, l'espace public, par exemple, sait
Bien sûr.
se reconvertir, on sait mettre à disposition des cours d'école. Alors, c'est sûr que sur le bureau, nous, un sujet qu'on a beaucoup creusé, c'est tous les aspects digitaux qui permettent d'être beaucoup plus fin dans la mesure des usages et dans la capacité de se réadapter. Donc, on peut avec des systèmes finalement assez simples, ben voilà, de donner d'autres fonctionnalités à des espaces, éventuellement les partager sur des choses qui n'ont plus rien à voir avec du tertiaire et augmenter l'amplitude. Voilà, mais tous les moyens technologiques aujourd'hui dont on dispose pour faire fonctionner tout ça, évidemment, ça n'a de sens que si les utilisateurs se l'approprient, si ça a une vie qui est derrière. Mais on a, je pense, aujourd'hui des possibilités qui vont bien au-delà de ce qu'on pouvait faire il y a encore
Oui, et
quelques
c'est pas
années.
par hasard, c'est très optimiste ce que vous dites, et c'est pas par hasard d'ailleurs qu'il y a réinventé Paris 3 et qui, je dirais, surfe sur cette thématique, hein.
Eh oui, bah, il faut trouver les moyens de se réinventer. Là, on a déjà à Paris réinventé les lieux souterrains. On a fait des choses assez exotiques. Voilà, là, le sujet est tout à fait évident. Et puis, il est porté aussi par des grands acteurs. Hein. Vous avez
Oui, c'est
cité
ça.
Action
Il n'est
Logement.
pas, c'est pas juste un effet de manche, hein.
Voilà, il y a Novaxia qui a créé un fonds avec l'optique de réutiliser, je crois, une dizaine de millions de mètres carrés, hein, qui seraient aujourd'hui vacants dans Paris. Alors, bon, c'est des chiffres dont on a du mal à être certain aujourd'hui parce que, certes, en ce moment, en période de confinement, il y a des locaux qui sont vides, on ne sait pas si ça va durer.
Oui,
En
mais c'est
revanche,
ça, on ne sait pas.
ce gisement, il est là, il est à disposition et les acteurs se mobilisent autour de ça. Donc, je pense que le phénomène va s'accélérer assez vite. Et finalement, les sujets techniques et architecturaux qu'on a invoqués au départ, parce que ce n'était pas très facile de transformer ces bâtiments-là, ça va être de moins en moins un sujet, en fait.
Oui, donc le sujet technique ne sera plus un sujet. L'équation financière en reste une. Et puis, nous savons réinventer cette ville qui est quand même une ville éternelle. Merci en tout cas, David, de cet échange, parce que je pense que nous ne sommes pas du tout au bout de cette grande histoire de la transformation des bureaux en logement ou des bureaux en autre chose. Et effectivement, Cardam reste un des acteurs extrêmement importants sur le sujet. Merci David et à bientôt sur vos antennes.
Merci à Myriam, à très bientôt.
Conversation urbaine et architecturale, Myriam Schwartz, architecte et urbaniste.
Radio-imo.fr.
Une émission présentée par Cardam, l'engagement d'un groupe innovant, un savoir-faire qui allie conseil, architecture et aménagement.